France Inter.
Non. France Inter. Le téléphone sonne. Éric Delvaux.
Trop de touristes par endroit alors que certains sites regrettent au contraire de ne pas en avoir assez. Question ce soir sur le surtourisme, ce tourisme de masse qui finit par nuire à la qualité des séjours, un surtourisme nuisible aussi à l'environnement, à la qualité de vie des riverains. Sur la planète, 95% des touristes ne visiteraient que 5% seulement des terres émergées. C'est dire s'il y a encore de la marge pour rééquilibrer tout ça. Le surtourisme, donc, ce soir, devenu principal ennemi du tourisme, comment le limiter? Qui est derrière cette surfréquentation permanente? L'exemple de Venise, qui a mis en place un ticket d'entrée à 5€ sur une trentaine de jours dans l'année. On verra avec quel succès dans un instant. Question délicate aussi sur la régulation par l'argent quand il suffisait, comme s'il suffisait d'augmenter le prix des billets d'avion et augmenter le ticket d'entrée sur certains sites pour dissuader les touristes. Et vous, envisagez-vous un tourisme plus durable, plus respectueux des sites et des riverains? Comment faites-vous? Eh bien, appelez-nous.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Avec trois invités pour répondre, déjà un premier invité, c'est Jacques qui nous appelle de l'Ariège. Bonsoir Jacques.
Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Oui, je voulais vous parler du surtourisme environnemental, ou ce que j'appelle moi l'effet de l'écolo-décathlon. Et notamment de la responsabilité des collectivités locales dans le développement de ce surtourisme. Alors si on est toujours sur le débat éternel, économie et environnement, hein, bien évidemment. Mais le problème, c'est que la nature, elle, ne se plaint pas. Et donc, la marchandisation de la nature conduit à des aberrations, puisque, bien évidemment, les collectivités sont dépassées. Et je vais donner comme exemple une société qui s'appelle Cabane Spa, et qui développe des cabanes sur des zones humides. Par définition, les zones humides sont des zones très sensibles, et qui, avec la complicité des collectivités locales, construit ces cabanes contre, je dirais, toute logique sur le plan environnemental. Et même les condamne, finalement, hein, avec l'assentiment, évidemment, des préfets, qui trouvent là une occasion supplémentaire de développer l'économie. Alors, que peut-on faire? Il y a évidemment des systèmes de régulation dans les parcs nationaux, par exemple. On parlait de Cassis il n'y a pas très très longtemps, où il y a un quota qui a été défini. Est-ce qu'il faudrait définir au niveau des collectivités locales des quotas également? Est-ce qu'elles manquent d'informations sur la sensibilité de l'environnement? Voilà, ce sont ces questions-là que je voulais poser à vous.
Merci. Merci beaucoup, Jacques, avec un constat et déjà pas mal de pistes de réflexion dans vos solutions à venir. Avec ce soir, trois invités pour vous répondre. Garance Bazin, doctorante en anthropologie de l'environnement à Paris-Nanterre, co-autrice du rapport pour Greenpeace intitulé « En mode avion ». Invité également Didier Arino, directeur général associé du cabinet spécialisé pro-tourisme. Également Valère Coréard, directeur du média Idée, Info Durable. Les auditeurs de Radio France vous connaissent bien, Valère, puisque vous avez été longtemps chroniqueur à France Inter, désormais sur France Bleu. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Notre auditeur demandait à l'instant s'interroger sur le surtourisme environnemental. Je vais peut-être vous poser la question d'abord, Didier Arnaud, pour savoir s'il existe une définition précise du surtourisme. L'environnement n'est seulement qu'un aspect de ce surtourisme.
Absolument. En fait, le surtourisme, c'est quoi? C'est lorsque les milieux naturels sont dans l'incapacité de se régénérer. Et la deuxième définition du surtourisme, c'est lorsque les populations locales n'arrivent plus à vivre normalement. Et ces deux facteurs sont véritablement des vecteurs,
Alors, on a du mal à vous entendre, Didier Arino, parce que la liaison n'est pas très bonne. On va essayer de vous reprendre dans un instant. J'accueille Valère Coréard, directeur du média Idée Info Durable. Sur tourisme environnemental, le cas de ces cabanes construites sur des zones humides. Et avant de parler des solutions, on va d'abord faire le constat. En quoi le surtourisme détériore l'environnement, Valère Coréard?
Éric Delvaux, vous savez, moi je pense que le surtourisme, en fait, c'est presque devenu la norme en réalité, qu'on a créé une espèce de concept comme un chiffon rouge, mais c'est ce tourisme de masse qui pose question. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a trop de monde au même endroit, eh bien on se retrouve avec une surconsommation des ressources naturelles, on va créer des masses de déchets incroyables, on va gêner aussi les populations locales, hein, et pas forcément à l'autre bout du monde. Ça peut se passer aussi en France. Je pense à la petite ville de Collioure, par exemple, dans le Grand Sud. Je peux vous dire que pour les habitants, au cœur de l'été, c'est pas facile d'y vivre au quotidien. Donc en fait, on se retrouve dans ces situations, encore une fois, un peu folles, où on surconsomme, on surtourisme, si j'ose dire. Mais simplement, c'est devenu une espèce de standard. Et ce standard, il a effectivement des conséquences qui sont très importantes.
Je pose la question maintenant à Garance Bazin. Je rappelle que vous êtes doctorante en anthropologie de l'environnement à Paris-Nanterre. Le surtourisme, on l'a un peu entendu déjà dans cette première intervention de Jacques en Ariège. Ce surtourisme, c'est aussi le procès des élites vis-à-vis des classes populaires. L'auditeur parlait des collectivités locales qui n'en font pas assez, peut-être.
Alors oui, effectivement, comme le dit le géographe Rémi Knafou, on a tous envie de se penser comme voyageur et pas comme touriste. C'est-à-dire, le touriste, c'est toujours l'autre. Et il y a une forme de phobie du tourisme qui s'est d'autant plus développée avec ce développement du tourisme de masse, notamment via les compagnies low cost qui emmènent tout le monde au même endroit, et le développement des réseaux sociaux et notamment des influenceurs voyage qui encouragent les gens à partir toujours aux mêmes destinations, à faire les mêmes photos. Et même si le tourisme a toujours reposé sur le mimétisme, c'est vrai qu'on est arrivé à une nouvelle envergure ces dernières décennies.
Avec, on le verra dans un instant, l'influence des influenceurs et des compagnies aériennes qui sont derrière, on va en reparler. Valère Coréard, s'il existe un tourisme de masse, c'est aussi parce qu'on a baissé les prix. On va sûrement un peu parler d'argent ce soir, mais c'est une question sensible, car il ne faudrait pas non plus tomber dans un mépris de classe. C'est une équation très sensible.
Mais évidemment, et il n'est pas question de mépris de classe. On a besoin de se divertir. Le voyage fait la jeunesse, mais bien plus. La rencontre de l'autre. Et le tourisme, c'est quand même un peu tout ça. C'est du repos, c'est de l'échange. Donc, je crois que la question, c'est simplement de voir quelles sont les balises qu'on se pose, soit en tant que citoyen, très librement, et parfois quand il y a urgence avec des formes de réglementation ou d'incitation, pour retrouver une forme de raison. Si vous faites un voyage dans l'année et que vous partez 3 semaines loin, bien sûr qu'il y a un bilan carbone, mais enfin, vous restez quand même assez raisonnable. Si en revanche, vous faites un week-end sur deux à prendre l'avion pour faire 2000 km aller-retour, peut-être que vous êtes dans un excès et finalement, vous prenez peut-être moins de plaisir à être dans cette folie, j'allais dire. Donc voilà, la question, c'est de stigmatiser personne. Et le low cost, pardon, mais il a cet effet vertueux de donner la chance à tout le monde d'être un touriste et de se faire plaisir. Et ça, on peut pas lui en vouloir de ce point de vue.
Le tourisme low cost qui a aussi un effet vertueux, vient de dire Valère Coréard. Je vous repose la question. Didier Arino, directeur général associé du cabinet spécialisé pour tourisme. On parlait de mépris de classe parce qu'il faudra forcément peut-être augmenter les prix. Attention à ne pas tomber dans ce mépris, hein.
Absolument. D'ailleurs, dès qu'on parle du tourisme, on en parle de façon caricaturale dans bien des cas. Et les marronniers du surtourisme, d'ailleurs, ils aiment la chaleur, les marronniers du surtourisme, puisqu'on en parle ce week-end, effectivement, une très forte fréquentation touristique. On en parle beaucoup en été, mais on ne parle jamais du sous-tourisme qui impacte très fortement l'activité dans notre pays. 95% de notre territoire vit en sous-tourisme la plupart de l'année. Et donc, quand on parle de surtourisme, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle de pic de fréquentation à certains moments? Au mois d'août, il se trouve que les classes populaires, elles partent en vacances au mois d'août. Donc, il y a une forme de mépris de classe d'une petite élite qui aimerait se retrouver tranquille lorsqu'elle part en vacances et qui met ça sur le compte du surtourisme. Mais quelquefois, c'est pas du surtourisme, c'est une fréquentation supérieure à la moyenne. L'important, c'est est-ce que les milieux, est-ce que le territoire est en capacité d'absorber ce tourisme, ce volume de clientèle? J'ai envie de dire que le tourisme, c'est un petit peu comme la relation qu'on a à la nourriture ou à l'alcool. Ça dépend ce qu'on en fait. Boire un peu plus, quelques verres, plus que de raison, ça pose pas de problème. Si c'est tous les jours, c'est véritablement problématique. Eh bien, le tourisme, c'est la même chose. Qu'on ait des pics de fréquentation, même voire quelques jours de surfréquentation, ça n'est pas un problème. En revanche, quand les milieux sont durablement affectés, lorsque les habitants ne peuvent pas vivre normalement, là, c'est un véritable problème. Et d'ailleurs, les exemples qui sont donnés, surtout...
Alors, on a décidément, Didier Arnaud, pardon de vous couper encore, mais je pense que vous êtes dans une zone qui ne capte pas bien. On est passé par téléphone pour avoir une meilleure liaison. Ce n'est pas encore le cas. On va essayer de vous rappeler encore pour améliorer cette liaison qui, décidément, a du mal à arriver à l'antenne de France Inter. Pour une majorité de touristes européens, Valère Coréard, le littoral français, ça reste la destination préférée des vacances estivales. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'ils vont chercher du tourisme durable, précisément?
Alors non, où on va chercher du tourisme durable, disons la vérité, aujourd'hui ça reste une grande minorité qui va sortir et qui va aller sur des destinations alternatives. Après, en général, on va chercher du tourisme durable là où vont les touristes. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des offres d'hébergement, par exemple, labellisées, on va adopter des comportements qui sont plus durables, plus citoyens, plus responsables. On va se déplacer aussi différemment et là, on peut quand même noter que l'offre rail est quand même en évolution et on voit bien que c'est en train de revenir un peu au goût du jour, voire même à la mode. On parlait d'influenceurs tout à l'heure, je ne sais pas si on va en parler après,
dans un instant.
Voilà, ça fait partie des nouveaux récits, c'est quand même assez intéressant. Donc, en général, le tourisme durable se fait là où le tourisme existe, je parle vraiment d'un point de vue de la masse. En revanche, il y a cette tendance alternative d'aller chercher des spots inconnus, d'aller chercher des lieux un peu insolites pour ensuite en faire état et découvrir à l'état naturel des endroits extraordinaires comme il en existe des milliers en France en dehors des sentiers battus.
Garance Bazin, je rappelle que vous êtes doctorante et autrice d'un rapport pour Greenpeace sur l'un des aspects que j'ai découvert d'ailleurs en préparant cette émission, c'est sur les réseaux sociaux, le poids des influenceurs, tourisme, de quoi font-ils la promotion, ces influenceurs?
Alors, ils font la promotion de ce qu'on veut bien leur confier comme partenariat, simplement. Pour les influenceurs voyage, ça va être énormément d'hôtels, bien sûr, les compagnies aériennes en énorme majorité, et d'autres types de services, typiquement de la nourriture quand il s'agira d'un restaurant ou un type de transport ou un type d'activité.
Et vous avez relevé que dans la plupart des cas, ça allait à contre-courant de l'urgence climatique.
Alors oui, et là-dessus, je relativiserai un peu le côté vertueux du low cost, parce que ce dont on s'est rendu compte, notamment un chercheur qui s'appelle Johan Demoli, c'est que depuis l'avènement des avionneurs low cost, il y a eu très très peu de démocratisation. En fait, les gens qui prenaient déjà beaucoup l'avion le prennent encore plus. Et du coup, on a 2% de passagers qui sont des ouvriers, et 27% des cadres supérieurs. Et au final, ce chiffre varie très très peu.
Cela dit, il n'a pas fallu attendre les influenceurs pour que l'avion devienne le levier de nos imaginaires de voyage.
Ah non, c'est vrai que voler, ça fait quand même très longtemps que c'est le rêve de l'homme.
Mais c'est là-dessus que s'appuient les influenceurs. On développe un imaginaire du sable fin, de l'avion qu'il faut aller chercher très loin. C'est ça que les influenceurs propagent en majorité?
Je pense que le mot « propager » est effectivement assez bien choisi, parce que ce qu'on remarque quand on commence à s'intéresser aux influenceurs, c'est qu'ils ne font que relayer des imaginaires qui sont depuis des décennies marketés par l'industrie du tourisme, notamment les avionneurs. Par exemple, quand on regarde les pubs des avionneurs, c'est en très grande majorité la plage et le sable fin qui est vendu, et ça se retrouve énormément sur Instagram, sur les visuels qui sont privilégiés, et même quand les publications ne sont pas sponsorisées, c'est toujours les mêmes visuels qui préexistent. Donc ça a effectivement très infusé les imaginaires.
Greenpeace qui réclame au gouvernement, Greenpeace à qui vous avez rendu votre rapport sur ces influenceurs payés, on va dire payés par les compagnies aériennes au passage?
Je pense qu'on peut dire payés parce qu'effectivement on reçoit un bonus en argent.
On leur offre des voyages j'imagine aussi peut-être, probablement.
Et dans ces cas-là, depuis une loi de juin dernier, il faut préciser si le voyage a été payé ou si
Il faut une transparence sur les influenceurs, savoir s'ils ont reçu de l'argent, exactement. Quelle somme et où c'est fléché.
Pas forcément quelle somme, mais est-ce qu'ils ont reçu de l'argent ou est-ce qu'on leur a juste offert le voyage? Et déjà, le fait que ça, ce soit transparent, c'est quelque chose de très nouveau.
Didier Arnaud, je pense qu'on vous a retrouvé. Greenpeace qui réclame au gouvernement de favoriser de nouveaux imaginaires de voyage plus éco-responsables. Pour le professionnel du tourisme que vous êtes, ça pourrait ressembler à quoi ces nouveaux imaginaires qui est plus respectueux de l'environnement?
D'abord, il y a des choses qui sont extrêmement pragmatiques. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Pourquoi aussi un grand nombre de personnes prennent des low cost? Parce que c'est souvent plus facile, lorsqu'on habite une grande métropole, de prendre un avion à proximité pour aller vers une destination que d'aller dans certains de nos territoires reculer. C'est plus facile d'aller à Venise de Paris que d'aller dans l'Aveyron ou aller en Provence occitane ou au territoire de Belfort. Donc on voit bien que c'est aussi le transport qui génère les flux touristiques. Et donc il faut une offre et une offre alternative. Et autant nous avons une offre TGV bien développée, mais c'est très compliqué pour la plupart d'aller dans des destinations avec des transports en commun.
Et donc, si je vous suis, Didier Arinaud, pour revenir à un touriste plus respectueux de l'environnement, il faudrait des billets d'avion plus chers que des billets de train. C'est quoi ? C'est une question politique ?
Il y a une question politique. De toute façon, le tourisme est politique. Si on est devenu une destination aussi forte, c'est parce qu'on a eu un aménagement de notre côte méditerranéenne, ce qui s'appelait le plan Racine. On a créé des stations comme la Grande Motte, comme Port-le-Cat, comme Gruissant. Il y a eu la Miaka qui a aménagé la côte atlantique. Et c'était du temps de Pompidou et de Gaulle. Ils avaient une volonté, c'était que les Français puissent partir en vacances sur notre territoire, découvrir nos territoires, et qu'ils n'aient pas besoin d'aller vers des destinations soleil comme l'Espagne. Donc il y avait une vraie politique d'aménagement du territoire, une vraie politique touristique. Il y avait aussi un désir d'accès à la propriété au travers des résidences secondaires. Et ça a été le même cas de figure pour l'aménagement de la montagne. Donc notre situation aujourd'hui et le fait que le tourisme, ce soit 2 millions d'emplois directs, 2 millions d'emplois indirects et 2 millions d'emplois induits, l'attractivité touristique des territoires qui génère énormément non seulement d'emplois, mais qui permet aussi au plus grand nombre de pouvoir vivre au pays, car sans le complément de l'activité touristique, bien de nos territoires seraient désertifiés aujourd'hui. C'est le complément de l'activité touristique qui permet à la pharmacie, au boucher, au boulanger de pouvoir perdurer dans des territoires qui sont des territoires éloignés. Donc c'est une politique, effectivement, et ce que l'on peut dire, c'est que ça fait 40 ans qu'il n'y a pas de politique sociale du tourisme, de volonté d'un aménagement, d'une politique de transport. Alors il y a des initiatives extrêmement intéressantes, avec le train à 1 euro, comme l'a fait la région Occitanie. Il y a aussi une appétence de nos concitoyens vers des destinations de pleine nature, vers des activités beaucoup plus saines. Les touristes ne sont pas des gens idiots qui décident d'aller se concentrer dans des endroits où il y aurait une masse pour se poser sur des plages. Enfin, c'est une image qui est complètement, très éloignée de la réalité. D'ailleurs, les gens nous disent, les vacances, ça coûte trop cher pour ne rien faire. Donc, il se trouve que les Français, ils ont envie de découvrir, d'apprendre, d'appréhender des territoires, de pratiquer des activités de pleine nature, d'aller à des festivals, de rencontrer des populations locales. C'est ça la réalité du tourisme aujourd'hui. C'est pas un tourisme idiot des années 70. Mais il se trouve qu'ils ont aussi un pouvoir d'achat, ils ont aussi des contraintes, et que dans bien des cas, quand ils regardent, ils font le calcul du rapport qualité-prix. Et c'est ce qui prime. D'ailleurs, il y a une grosse différence entre le discours qui est tenu et la réalité des comportements. Ceux qui vous disent qu'ils désirent de moins prendre l'avion sont ceux qui le prennent le plus. Et quand on interroge le concitoyen en leur disant « Très bien, vous avez une volonté de préservation de la planète, d'écologie. Est-ce que vous êtes prêt à payer 10% de plus ?» pour des voyages éco-responsables, et il n'y en a que 7%.
Eh bien, je vais poser la question à Garance Bazin, qui s'est bien intéressée, doctorante, à cette question-là. Garance Bazin, est-ce que, comme on l'a fait pour la loi Evin, pour interdire la publicité de l'alcool, il faudrait par exemple interdire les publicités pour certaines destinations les plus polluantes du point de vue du rapport carbone ?
Alors, c'est ce que préconise Greenpeace, effectivement, dans la partie recommandation du rapport, qui est la seule qu'on n'a pas écrite, ma co-autrice Saskia Cousin et moi, ils expliquent qu'effectivement, il faudrait une loi Evin climat interdisant par exemple les publicités pour les grosses voitures polluantes, les billets d'avion pour l'autre bout du monde à des prix cassés, et ce genre de service effectivement très polluant.
Oui.
Non, en plus, il faut remarquer que le train est aujourd'hui 2 à 3 fois plus cher que l'avion en Europe, et en France, c'est 2,6 fois plus cher, alors que c'est 80 fois moins polluant.
Je vais poser la même question à Valère Coréard, le directeur du média Info Durable. Est-ce que les politiques doivent créer de nouvelles lois sinon, eh bien, ça ne sortira pas tout seul, ce tourisme plus respectueux de l'environnement?
Je pense que la loi peut avoir un rôle à jouer, notamment quand on est dans une situation d'urgence. La réglementation, par exemple, pour mettre en place des quotas sur des lieux très fragiles. On pense notamment aux enjeux de biodiversité, de ressources naturelles. Mais En revanche, cette idée que réglementer la publicité changerait quelque chose, moi, je ne le pense pas. Il n'y a qu'à voir la consommation d'alcool, la consommation de tabac dans notre pays.
Ah, il a baissé tout de même.
Oui, mais enfin, j'ai
depuis
pas l'impression
qu'on soit
devenu un pays sobre pour autant. Très bien, mais ça n'a pas réglé le problème. Et la vraie question, de mon point de vue, qui se pose, même si ça peut être un levier, mais pour qu'il y ait un changement fondamental des comportements, le vrai sujet, c'est le récit, je pense. C'est la façon dont on raconte et dont on nourrit l'imaginaire de dire « mais où est-ce que je vais passer de bonnes vacances ?» Et là, on revient sur cette situation dans laquelle on est, où c'est un peu la plage de sable fin. Enfin, vous savez, il y a des plages de sable fin en Ile-de-France. Et en Ile-de-France, il y a même le sable le plus fin du monde, mais on le sait pas très bien.
Non, on ne sait pas encore, non.
Voilà, mais pourtant, c'est une réalité. Donc, c'est vrai que quand on est sorti du Covid, on s'est tous dit « waouh, c'est merveilleux, la France, le tourisme local, etc. » Et puis, on est revenu dans cette espèce de... dans ce travers. Mais moi, je suis quand même assez positif sur la situation parce que, comme le disait notre collègue, les gens sont intelligents. Il ne faut pas prendre les touristes pour des imbéciles, pas plus que les citoyens. On sait très bien ce qui est en train de se passer, on voit très bien que la planète elle est en train de changer, que le climat est en train de devenir fou. Et je pense qu'au plus nous communiquerons sur des informations scientifiques et sur l'impact notamment de nos déplacements et de nos choix de touristes, au plus les comportements évolueront. Et puisque le marché guide le monde,
ça ira mieux. Très bien, oui. Question ce soir au téléphone sonne sur ce sur-tourisme quand le trop-plein de touristes finit par nuire, non seulement aux vacanciers, aux locaux, mais aussi à l'environnement. Vous nous appelez sur France Inter.
France Inter, le téléphone sonne.
Et au 01 45 24 7000, il y a Francine qui nous appelle de Paris. Bonsoir Francine.
Bonsoir.
Quelle est votre question?
Voilà, j'aimerais savoir si le carburant des avions est taxé ou non.
Alors on va poser la question, je ne suis pas un spécialiste de la fiscalité du kérosène. Didier Arino, peut-être, est-ce qu'il y a dans le kérosène des avions moins de taxes qu'ailleurs?
Eh oui, il y a moins de taxes dans le kérosène des avions. C'est une incongruité, mais c'est aussi une réalité, de façon à avoir soi-disant une équité entre les différents pays et pour pouvoir avoir de distorsions de concurrence. Mais oui, c'est une réalité. Le kérosène est moins taxé, beaucoup moins taxé que l'essence que vous prenez à la pompe régulièrement. Donc c'est aussi un problème. Alors il y a des efforts qui ont été faits, bien évidemment, pour que les avions polluent moins et notamment consomment moins, mais il y a une véritable distorsion. Et de ce fait, c'est comme ça qu'on a des billets d'avion qui sont aussi beaucoup moins chers que des billets de train, même si ça n'est pas la seule raison. Et il faudra avoir une véritable politique sociale équilibrée des transports en commun vers nos territoires touristiques.
01 45 24 7000. Jean-Marie, vous nous appelez de Guadeloupe. Bonsoir ou bonjour pour vous peut-être.
Bonsoir.
C'est
l'après-midi.
Ah oui, c'est l'après-midi, il est 6 heures de moins, 5 ou 6 heures de moins. Votre question, Jean-Marie?
Oui, moi je voulais surtout dire que les pays du Sud, le surtourisme, ce n'est pas leur problème. Eux, ça permet d'équilibrer leur budget. Et le surtourisme, au contraire, ils en réclament. Donc déjà, il faut avoir un peu de recul sur tout ça. On ne croit pas assez à la science, je trouve. On parle d'interdire les gens de prendre l'avion. On ne croit pas assez à la science. On peut demain créer, si on se donne les moyens, des carburants, j'allais dire non polluants, même pour les avions.
Ah mais en attendant, c'est du kérosène, donc ça pollue quand même pas mal, en attendant que ça vienne.
En attendant que ça vienne, bon, il faut faire des avions qui polluent moins, ça c'est certain, mais on ne va pas empêcher les pays de se développer et les pays du Nord de voyager. Je veux dire, c'est quelque chose d'ubuesque. Une deuxième chose aussi, en France elle-même, qui est un pays le plus visité au niveau touristique, je crois plus de 78 millions, je crois, et qui ne génère pas une industrie, j'allais dire, qui est la première au monde. Ils font moins d'argent que les Américains, moins d'argent que les Espagnols, qui ont moins de visiteurs par an. Donc là aussi, il y a une industrie touristique qui n'est pas développée, qui ne se développe pas assez par rapport au nombre de touristes qui visitent la France. Ça génère moins d'argent que l'Espagne, qui fait 10 millions de moins de visiteurs. Donc il y a aussi là des marges de progression.
Eh bien, merci beaucoup de ce témoignage. Jean-Marie, je vais soumettre votre témoignage à Garance Bazin, qui n'était pas très convaincue en début d'émission déjà. Je ne suis pas sûr qu'elle le soit devenue en quelques minutes. Pas très convaincue sur ce cercle vertueux que vous mettez en avant, Jean-Marie. Cercle vertueux du tourisme de masse pour les pays du Sud. Vous n'y croyez pas?
Non, pas vraiment.
Pourquoi?
Bah, quand on se penche sur les rapports du GIEC, les différents qui sont sortis ces dernières années, on se rend compte non seulement que c'est pas réaliste de rester technosolutionniste aujourd'hui, mais aussi que ça va à contresens de ce que disent les scientifiques. C'est-à-dire que ce soit la compensation carbone, les biocarburants, l'avion à hydrogène ou même l'efficacité énergétique dont parlait mon collègue tout à l'heure, aucune de ces solutions ne nous permettrait ni de réduire la pollution de ce qu'il faut qu'on la réduise pour respecter les accords de Paris, mais en plus, elles ne sont pas réalistes si on veut maintenir le trafic aérien au même niveau. Par exemple, si je vous parle des biocarburants, non seulement il y a des risques de pollution de l'eau et aussi de limitation de l'accès aux terres pour la nourriture, mais si on voulait voler autant qu'on le fait aujourd'hui uniquement avec des biocarburants, sans parler de la pollution qui serait réduite mais pas tant que ça, en fait il faudrait choisir entre voler et manger. C'est aussi bête que ça. On n'a pas assez de terres disponibles. Et pour la compensation carbone, si je prends juste l'année 2021, on a émis 52,8 milliards de tonnes de CO2 pour compenser tout ce gaz. Il faudrait planter des arbres sur absolument toute la planète, toutes les surfaces émergées, et même comme ça, il faudrait deux planètes de plus pour y arriver.
Donc votre solution, c'est de supprimer tout simplement l'avion aux touristes.
Pas forcément le supprimer, mais le limiter. Déjà, il faudrait remettre un peu d'exceptionnalité et arrêter les city breaks de deux jours dans les capitales européennes.
Et puis il y a aussi le cas de Venise à présent, contre le surtourisme et ses conséquences environnementales. Venise qui se rapproche d'ailleurs d'un classement au patrimoine mondial en péril. Venise est en train de tester une solution, un ticket d'entrée de 5 euros que doivent payer certains visiteurs quelques jours dans l'année. Nous sommes en ligne avec Rémi Wacogne. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vénitien et membre du collectif Ocho, spécialiste du logement. Ce droit d'entrée de 5 euros, pour l'instant, après quelques jours d'expérience, quel résultat depuis sa mise en place ?
Alors, c'est difficile d'avoir une évaluation effective de ce qui se passe. C'est-à-dire que l'administration publie des chiffres, mais c'est difficile de voir effectivement quels effets concrets, ce n'est qu'il y a des effets aussi inattendus. Il y a par exemple les associations de hosts de meublés touristiques qui plaignent que leurs invités,
clients.
Les gens qui viennent doivent payer en plus une autre taxe, donc ça crée un peu de confusion de ce point de vue-là. Ce qui est sûr, c'est que même les jours où la contribution à l'accès, comme ils appellent ça, est effective, à partir du 25 avril et pendant la semaine qui a suivi, on continue à jouer des coups dans les rues.
Donc vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas un premier bilan très probant. D'ailleurs, ça concerne une partie infime de la population des touristes à Venise, ce ticket d'entrée ?
Disons que l'objectif, explicite de ce ticket, comme tout le monde l'appelle, sauf l'administration, ce serait celui de désencourager le tourisme qui, selon eux, est le tourisme néfaste, c'est-à-dire le tourisme à la journée, c'est-à-dire les gens qui arrivent des plages ou qui viennent, quoi qu'il en soit, sans passer du temps, sans passer une nuitée à Venise, comme si le fait de passer une nuitée à Venise, ça serait un tourisme de qualité. Nous, encore une fois, comme vous l'avez dit, on s'occupe du logement et on peut dire que le tourisme vit de logement, vit d'habitation. Et le problème n'est pas seulement celui des excursionnistes ou des touristes à la journée, mais aussi celui des meublés touristiques en particulier. C'est-à-dire qu'on a mis en lumière le fait que le nombre de lits touristiques, donc hôtels, meublés et tout ça confondu, a dépassé le nombre de résidents à Venise à partir de cette année.
Merci beaucoup. J'interromps, pardon, mais là encore, la ligne n'est pas très très bonne et je pense à nos auditeurs qui sont obligés de tendre l'oreille. Merci beaucoup de ce témoignage en direct de Venise. Vous avez évoqué le parc immobilier, Valère Coréard. En France aussi, le parc immobilier est montré du doigt ?
Oui, le parc immobilier est montré du doigt, mais on a aussi toute une offre très intéressante avec, je le disais tout à l'heure, des labels qui font un travail remarquable et qui sont de plus en plus exigeants. Donc ça veut dire que, disons, aujourd'hui, si la demande augmente d'avoir accès notamment à du logement plus durable, c'est de plus en plus possible. Et d'ailleurs, les plateformes classiques commencent à intégrer ces critères, puisque, je le disais tout à l'heure, c'est le marché qui guide le monde. Donc si à un moment donné, le marché est en demande de critères de durabilité, des acteurs comme Booking, Airbnb et les autres intégreront des critères de durabilité de manière à ce que les choix soient plus fins. Encore une fois, le logement, bien sûr, est une thématique extrêmement importante, puisqu'on sait, notamment en termes de gaz à effet de serre, que c'est majeur. Mais quand vous regardez un déplacement, et l'ADEME a publié plusieurs rapports là-dessus, c'est vraiment le déplacement, une activité touristique, c'est le déplacement qui compte le plus, autour de 40%, presque la moitié. Donc, c'est absolument fondamental de changer encore une fois nos habitudes touristiques pour remettre de l'exceptionnalité, comme vous le disiez très justement, madame, tout à l'heure, dans les voyages en avion.
Oui.
Oui, Didier Arino, je reviens sur ce ticket d'entrée pour limiter la fréquentation touristique. Ça a du sens, ça aurait du sens en France pour vous ?
Alors ça peut avoir du sens sur certains territoires fragilisés. On peut avoir des méthodes diverses et variées, des quotas, le fait de donner aussi des horaires pour une meilleure fluidification de la fréquentation touristique. Mais à Venise, c'est une vaste fumisterie cette affaire. C'est 5 euros, 29 jours dans l'année. Venise a investi plus de 2 milliards d'euros pour passer de 10 à 20 millions de passagers à l'horizon 2032. Il y a une multiplication de 140% des hébergements touristiques et notamment des meublés qui sont passés de 3300 à 8000. Non mais on se moque du monde là, c'est véritablement un moyen de faire rentrer de l'argent dans les caisses, sans nous dire d'ailleurs à quoi ils vont être, à quoi cet argent va être affecté. Et puis vous savez, quand on parle de surtourisme, on a toujours les mêmes exemples. On parle toujours de Venise, d'Amsterdam, de Barcelone, on parle des Calanques, mais aujourd'hui il y a eu des mesures qui ont été prises. On parle du Mont-Saint-Michel, il y aurait certainement beaucoup de choses à faire, de l'île de Bréa, mais on ne voit pas aussi toutes les mesures qui sont prises, et notamment dans l'histoire que l'on raconte, pour permettre à nos concitoyens d'aller vers des sites alternatifs, de pouvoir découvrir des destinations françaises extrêmement attractives, intéressantes, en lien avec les productions de terroir, en lien avec la culture locale, en lien avec les circuits courts. Et aujourd'hui, bon nombre de nos ostréiculteurs, de nos viticulteurs, de nos producteurs ont besoin de ce complément de l'activité touristique et de ces circuits directs de vente qui permettent à nos territoires de se développer et à nos agriculteurs de mieux vivre. Donc je crois que le tourisme, c'est un équilibre. C'est un équilibre qui doit être pensé, qui doit être raisonné, dans lequel il doit y avoir une politique de l'État. Et malheureusement, en France, nous vivons sur nos lauriers, nous nous reposons sur nos lauriers d'une politique qui a été pensée il y a plus de 40 ans. Donc de ce fait, si nous ne faisons rien, nous aurons de plus en plus de Français qui partiront à l'étranger via des low cost, nous aurons une plus grande désertification de nos territoires, et avec toutes les conséquences que ça a sur ces territoires, sur ces habitants, et aussi y compris dans un vote politique, parce que bon nombre de ces acteurs, de ces territoires, se sentent abandonnés. Et il y a une vraie crise de nos territoires, il faut en avoir conscience, c'est fondamental.
Et il y a une équation à résoudre, il y a de la place de l'autre côté, effectivement. Avant d'aller au standard, on va rejoindre Frédéric dans un instant. Garance Bazin, d'abord, cette histoire de tickets d'entrée payants pour limiter le surtourisme, est-ce que ça prend du sens, est-ce que ça prendrait du sens en France, et à vos yeux ?
Alors, c'est pas forcément ma spécialité, mais le problème de ce genre d'initiative, c'est que ça rend d'autant plus élitiste un tourisme, et ça éloigne des catégories populaires qui auraient pu vouloir profiter de ces endroits en mettant le prix comme condition d'accès. Donc, si on est plutôt sur un modèle de vacances pour tous et de tout le monde devrait avoir accès au tourisme, ce genre de taxe devrait être effectivement à éviter.
01 45 24 7000 avec Frédéric qui est en ligne. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir, merci beaucoup de prendre mon appel. C'est avec émotion que je vous parle parce que, bien entendu, mon appel n'est pas très très objectif car j'ai la chance d'être originaire de l'île de Porquerolles.
Porquerolles.
Voilà, et c'est vrai que bon, moi j'ai 50 ans, j'ai pu y grandir et y vivre longtemps. Et c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, on voit une dégradation extraordinaire. Et ma mère parlait tout le temps des gardiens du temple, en évoquant les commerçants, en évoquant les élus. Et c'est vrai que moi, ce qui me ravage, je dirais, c'est la dégradation des lieux, mais même les lieux. Je parle même pas d'écologie, je parle de l'ambiance sonore du soir, je parle de l'ambiance sur les plages.
Il y a des navettes pour aller à Porquerolles, et donc on peut arriver à réguler, faire des quotas selon les navettes.
Oui, alors c'est mis en place, mais après il y a tout un tourisme de luxe avec beaucoup d'argent, et c'est vrai que aujourd'hui je peux comprendre que ça soit difficile de fermer les vannes, parce que c'est des sources financières colossales, mais ça se fait vraiment, vraiment au détriment des Porquerolais. Je n'habite pas à l'année à la Porquerolles, mais c'est vrai que les moments où j'y suis, c'est très dégradé, malheureusement. alors que je suis le premier à vouloir qu'un maximum de monde puisse voir cette île et sa beauté, quoi.
Ouais. Merci beaucoup de ce témoignage sur les problèmes que rencontre l'île de Porquerolles, Didier Arino. Et il y a une solution, un début de solution sur cette île de Porquerolles, ce sont les navettes. Et passer 6000 visiteurs dans la journée, eh bien, on ferme les navettes. C'est une bonne solution, facilitée par le fait que c'est une île peut-être.
Écoutez, oui, c'est une excellente solution. Il y a une limitation avec un nombre de passagers par jour, et ce qui permet de limiter les flux de passagers. Alors, quand on parle de destination, alors il y a ceux qui vous diront oui, mais après, les destinations pour les riches, mais je suis désolé, moi je ne suis pas d'accord avec cela. On n'est pas obligé d'aller tous dans les mêmes destinations. Et s'il y a des destinations de gens riches qui se retrouvent là-dedans, on n'est pas obligé d'adhérer à ce type de destination. Moi, ça m'intéresse pas, une destination où il y a que des riches. Et si j'en suis exclu, ça me pose aucun problème.
Mais pour d'autres, c'est important.
Peut-être, mais c'est important. On n'a pas vocation à aller partout, tout le temps, dans tous les espaces. Et donc, justement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de faire un pas de côté, d'aller vers d'autres destinations, d'aller vers d'autres lieux. On n'est pas obligé de découvrir que les lieux instagrammables. Et c'est tout l'intérêt du tourisme. Et c'est aussi comme ça qu'on va à la rencontre de populations. Vous savez, pour moi, il y a une chose qui me semble absolument horrible quand on part à l'étranger, c'est tous les gens qui sont avec le guide du routard. Ils vont dans un restaurant où il n'y a que des Français parce qu'ils ont tous le guide du routard, y compris à Venise. On peut aller dans des restaurants très typiques à Venise sans rencontrer des Français, en se préoccupant de l'endroit où vont les Vénitiens, en dehors des sentiers battus. Il y a des espèces d'autoroutes à touristes comme ça qu'il faudrait suivre. Non, je pense qu'il faut faire appel à l'intelligence des personnes, à leur curiosité, et c'est une bonne façon de réguler les flux et d'aller vers des destinations alternatives. Il y en a bon nombre dans notre pays, vous savez, si on a envie de découvrir, on peut aller dans les Hautes-Vosges, on peut aller en Provence-Occitane, on peut aller dans les Corbières, absolument une destination fabuleuse, où on a de très bons vins, on a des châteaux cathares, on a la ville de Carcassonne, on peut pratiquer des activités de pleine nature, mais il y a même des sentiers, des orchidées. Donc, vous voyez, il faut sortir, et l'avantage que l'on a aujourd'hui, au lieu de se cantonner à aller regarder sur Instagram ce qui est à la mode, c'est faire preuve de curiosité, aller regarder les destinations alternatives. Et il y a une mesure qui est très concrète. On devrait, les collectivités, alors là, je parle des collectivités, ne devraient pas faire la publicité des lieux qui sont déjà fortement fréquentés, mais faire peut-être une communication sur le littoral en hiver ou la montagne en été.
Eh bien, merci à tous les trois. J'espère qu'on aura tenté de convaincre certains, et moi le premier probablement, à réapprendre, à se projeter dans nos vacances, dans ce tourisme, pour éviter ce surtourisme. Merci beaucoup à vous trois. Merci aux auditeurs.